Bonjour François Daubinet, vous êtes chef pâtissier consultant. Vous êtes un des héros de la pâtisserie contemporaine française puisque vous avez un peu développé votre métier aux États-Unis. Vous êtes allé au Crayon où vous étiez de jeune commis jusqu'à chef adjoint. Vous avez été chef de partie au Plaza Athénée avec Jean-Marie Hiblot et Christophe Michalak. Vous avez été chef pâtissier adjoint de la Michalak Masterclass. Tous ces beaux débuts. Ensuite, on vous voit en pâtisserie de restauration chez Taïwan, 2 étoiles. Et vous faites grimper l'établissement. Et ensuite, on vous voit dans l'établissement magique, Fauchon, de 2017 à 2022. Comment tout a commencé? Pourquoi la pâtisserie et pas le football ou agent secret?
Alors, bonjour déjà, bonjour Franck. Comment tout a commencé? Je dirais par un appel à la transformation de la matière. C'est vraiment peut-être ce qui m'a tout de suite attiré dans le métier de la pâtisserie, c'est cette fascination à transformer la matière, qu'elle soit sucre ou chocolat, ou de la crème ou des noisettes. Je trouve ça assez incroyable et c'est ça qui m'a fait plonger dedans à 15 ans.
À 15 ans, vous rêviez d'être vulcanologue, et oui. Puis vous allez à une journée porte ouverte des Compagnons du Devoir de Dijon, et là, il y a un souffleur de verre qui vous éclate le cerveau.
Souffleur de sucre.
De sucre, et c'est là que vous décidez d'embrasser ce métier.
Oui, mais en fait, j'ai découvert les métiers d'art et d'artisanat d'art à ce moment-là, en fait, lors de ces portes ouvertes à Dijon, chez les compagnons. Et puis, c'était un compagnon pâtissier qui était en train de souffler du sucre et qui m'a vraiment expliqué l'histoire de cette transformation de la matière. Et en fait, je trouve que de mettre du sucre blanc la plupart du temps dans de l'eau et avec du glucose et d'en faire une cuisson, il m'a expliqué tout ça. J'étais complètement novice. Ça a été incroyable. Ça a été une révélation.
Ça a été tellement incroyable que vous avez, dans la foulée, passé chez les Compagnons du Devoir le CAP pâtissier, boulanger, chocolatier, le BTM pâtissier et même le brevet de gestion en entreprise artisanale. Pour moi, vous êtes un super diplômé. Et à 19 ans, l'Amérique, vous rejoignez financier pâtisserie pour être responsable des corps. Vous avez 19 ans.
C'est ça.
Mais comment on va en Amérique à 19 ans? C'était
l'Amérique. Ouais, alors on va en Amérique à 19 ans, extrêmement motivé, passionné, et puis surtout prêt à tout, prêt à relever les manches pour aller relever un défi qui était vraiment, j'avais le souhait, et je me suis donné les moyens de fêter mes 20 ans à New York. C'était vraiment très important pour moi, et je voulais vraiment apprendre à parler couramment anglais, ce que je ne savais pas faire. Et c'était ma première motivation à traverser l'Atlantique et aller là-bas, ouais.
Financier pâtisserie, vous allez dans les cuisines de Dominique Ancel, oui. Pâtissier de Daniel Boulud, 3 étoiles Michelin,
exactement.
Qui a créé le fameux Chronote,
oui.
Et qui est le seul pâtissier français qui réussisse aux États-Unis, on peut le dire comme ça.
C'est pas le seul, mais il y a Amaury Guichon aussi.
Quand même. Mais il vend pas de gâteau.
Oui, d'accord. Ouais.
Et vous revenez à Paris à l'hôtel de Crayon, pourquoi?
Je reviens à Paris. En fait, j'ai fait une super expérience à New York. J'ai adoré ma vie là-bas. J'ai fait beaucoup la fête. J'ai beaucoup travaillé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde. C'était incroyable. Et puis, je suis rentré à Paris pour finir mes études, pour finir mon BTM, pour finir mon cursus chez les Compagnons du Devoir. Donc, c'était important pour moi de finir ce cycle. Et j'avais vraiment l'intention de repartir assez rapidement après la fin de mon cycle chez les Compagnons aux États-Unis et notamment à New York. Et puis, la vie a fait que finalement, je suis rentré à l'hôtel de Crayon. Quelques mois après.
Et vous y êtes resté 2 ans.
2 ans et demi, oui.
Le temps d'être chef adjoint, quand même.
Oui, c'est ça.
Vous aviez déjà des qualités professionnelles bien affichées, hein,
Alors, des ambitions, oui.
Ah.
Une expérience, peut-être. Une expérience, j'avais déjà quand même presque 8 ans d'expérience en pâtisserie, quoi. 7 ans.
Ensuite, il y a cette incroyable histoire 2013, parce que ça fait 10 ans, donc c'est une petite décennie passée, c'est le Plaza Athénée avec Jean-Marie Hiblot et Christophe Michalak.
Ouais, ça a été un grand changement aussi pour moi. C'était vraiment, j'ai appris beaucoup de choses de rigueur, de qualité auprès de Jérôme. Et puis le travail en service, en équipe et tout, j'ai vraiment appris ça à l'hôtel de Crayon sous Jérôme. Et lorsque je suis arrivé au Plaza Athénée avec Christophe et Jean-Marie Hiblot, j'ai vraiment appris d'autres choses, des qualités humaines hors normes de Jean-Marie à l'hyper créativité de Christophe. Ça a été une expérience extrêmement marquante et bénéfique, je pense, dans mon parcours professionnel.
Dans la foulée, votre parcours continue de suivre l'aspiration dans le virage pour rejoindre la Michalak Masterclass. où avec Marie Meunier et Yann Lagoutte d'Ormengui,
c'est ça.
Vous devez créer chaque jour un nouveau fantastique rond de 18 cm de diamètre.
Exactement.
Comment on fait là quand on se dit bah, il faut créer un truc tous les jours?
Et ben là, on se fait un peu violence. On se faisait aussi secouer par Christophe pour essayer d'aller repousser les limites, sortir un peu du cadre de ce qu'on avait l'habitude de voir avec les entremets congelés, glacés, démoulés glacés ou pulvérisés. On avait interdiction de faire tout ça. On n'avait d'ailleurs pas de congélation au départ. Et on devait vraiment dresser, innover, imaginer des décors chocolat, une autre façon de faire. C'était vraiment très innovant à l'époque. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me pencher sur la création et à en faire presque mon métier, en fait.
Ben là, après, en 2015, vous rejoignez le Taïwan, 2 étoiles, avec le chef Alain Salivares. Et il y a surtout, dans votre carte, la découverte autour du pain aux notes de vanille, fève tonka et glace au pain grillé. C'est-à-dire qu'on est en 2015, vous êtes déjà sur le pain grillé et ces goûts-là.
Ouais, déjà surtout 2015, j'étais déjà sur une réutilisation du pain qu'on jetait tous les soirs après le service, qui m'a mené à faire ce dessert avec vraiment 100% de réutiliser un peu, je vais pas dire recycler, mais réutiliser des ingrédients qu'on avait et des matières qu'on avait pour la transformer. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'éclater dans la créa, quoi, à tirer un peu le fil de ce que j'aimais faire, et notamment de la créa, et sortir un peu du cadre. Ouais.
C'est pas la petite restauration qui favoriserait plutôt la création comme ça, rapide?
Ah bah si, complètement, bien sûr. Moi j'ai appris pendant presque 10 ans en pâtisserie de boutique, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, salon de thé, pour ensuite aller après vraiment m'ouvrir l'esprit en restauration à l'hôtel de Crillon, et c'est ça qui m'a vraiment, je pense, ouvert les portes d'une nouvelle façon d'imaginer les desserts. En fait, c'est pas des gâteaux, c'est des desserts. C'est une grande différence qui est vraiment importante. Parce que un gâteau, c'est par définition assez figé, ça se transporte, ça se conserve, ça se partage. Un dessert, ça peut se partager, mais c'est quand même généralement plutôt individuel à l'assiette. Ça se transporte pas, ça se conserve pas, il y a du chaud, il y a du froid, il y a une expérience. C'est vraiment pas la même approche, et j'ai vraiment appris ça et cultivé ça, et j'ai adoré.
N'empêche que en 2017, pour joigner, faut dire que qui aurait refusé, vous devenez chef pâtissier exécutif de la Maison Fauchon et développement des produits sucrés. Alors, moi, vous savez, je suis fan, hein. On vous doit la renversante Tardian du Jard, que nos abonnés retrouvent la recette dans le journal du pâtissier numéro 500, et c'est que vrai. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, je peux vous dire que c'est inspiré du travail des métiers de la forge, comme nous l'expliquait François, un travail de métal frappé, un décor de cacao bronze, un effet martelé et doré, où une couche de chocolat thermoformé vient apaiser les noisettes avant d'être brossée de poudre scintillante pour parfaire l'aspect d'un métal précieux. Et après, vous mangez un truc au géant du jardin, Mathieu. C'est plus en vente, ça?
C'est plus en vente, je ne crois pas, non.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Déjà parce que j'ai quitté le groupe et l'entreprise il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans. Mmh. Et puis il y a d'autres créations, d'autres choses, je pense.
Ouais, c'est vrai que chez eux, vous aviez créé aussi le bisou bisou. Alors, c'était hallucinant parce que, place de la Madeleine, on avait une bouche avec un piercing.
Avec un piercing, ouais, c'était osé à l'époque.
Déjà, avoue que vous étiez un pâtissier bien tatoué, plus de piercing. Ah ouais. C'est la révolution, place de la Madeleine.
Un peu, ouais. Et puis c'était au piment.
Et puis, dans votre parcours, après, vous êtes allé vous faire du mal, vous creuser jusqu'à l'os en faisant le finaliste du meilleur ouvrier de France pâtissier 2018.
Tout à fait.
Depuis des années, vous suivez des cours du soir au musée des arts décoratifs pour vous former en céramique et en dessin.
C'est vrai.
2 à 3 soirs par semaine pendant 3 heures, même depuis que vous avez 2 charmantes princesses filles avec votre femme qui est pâtissière aussi.
Oui.
En 2022, on comprend enfin un peu mieux qui est François Daubidet, qui nous faisait perdre un peu un coup dans la restauration, un coup dans la boutique. Et vous sortez votre livre Inspiration, où on comprend que, voilà, ce qui vous conduit, finalement, c'est la création. C'est ça qui vous plaît, non?
Ah ouais, moi j'adore ça déjà. Alors, 1, ça me passionne. Et 2, je suis un grand, grand curieux de la vie en général et des rencontres. Et ça m'a permis, au fur et à mesure des années, quand même, de rencontrer des gens et des professionnels extrêmement talentueux et compétents et passionnants en fait. Et moi j'adore ça en fait, j'adore voir la passion dans le regard des gens, dans les gestes, j'adore l'expertise de la main, j'adore la transformation de la matière. Et ça c'est en fait des mots comme ça, des mots clés qui sont similaires au métier de la création en général, mais surtout au métier d'art et d'artisanat d'art. Et ça c'est vrai que c'est un sujet, je pourrais en parler pendant des heures je pense, parce que ça me drive depuis des années quoi.
Et dans toutes ces créations, vous en avez une préférée ?
Dans lesquelles ?
Dans les vôtres.
Dans le livre, issu du livre ?
Ouais, dans le livre, tiens, comme ça, nos lecteurs pourront aller vers votre livre par l'exposition de la Martinière.
Elles sont toutes extrêmement différentes et toutes liées à une rencontre et une attache que j'ai avec la personne. J'ai adoré travailler sur la robe sur mesure pour Alicia Aliès, que j'ai fait avec Elsa Muse, la créatrice.
1500 sequins.
Ouais, 1500 et 2000, ouais. Ouais, complètement cousu à la main et tout avec Elsa. Elsa était, est devenue une amie que j'adore et on a super bossé sur ce projet. J'ai adoré ma rencontre avec Karl Maslow, qui était un créateur en joaillerie et en bijouterie et qui fait des choses exceptionnelles. Et on a fait une tablette ensemble avec du laiton qu'on a fondu. On a vraiment travaillé la matière pour en faire une matrice. J'ai adoré aussi travailler parce que je suis passionné du geste de la main avec Stéphanie Langard qui crée et qui fait des formes incroyables en céramique. Donc c'est vraiment des projets tous.
En fait, vous vous voyez pas dans une boutique, pâtisserie de boutique, quoi.
Ah, pas du tout.
Ah, c'est ça.
Ah, pas du tout. Déjà depuis des années.
Plus en restauration non plus, éventuellement si.
Non, pas en restauration. Plutôt, je dirais dans une gastronomie au sens large, plutôt avec une offre très décomplexée, plutôt coffee shop, plutôt casual, vraiment des bons produits bien faits qui respectent le client et le métier, mais vraiment dans le partage et la générosité.
Oh, mais ça,
c'est ça qui m'anime aujourd'hui.
Ils vont le dire. Ils veulent
oui, bien
ça.
Sûr. Mais au-delà de ça, moi j'aime vraiment la créa pour la créa aussi. Ah, j'aime les trucs un peu foufou. Ah. J'aime les trucs qui décoiffent un peu. Ça me passionne quoi.
Est-ce que c'est un secret de dire que vous avez un projet avec un parfumeur, fabricant de mode international français ?
C'est pas un secret, mais c'est pas encore sorti.
D'accord. Mais oui, c'est ça qui vous motive.
Ouais, j'adore l'idée de créer. Alors à la fois pour des marques qui sont très fortes et qui ont des univers très 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 forts et auxquels il faut que je m'adapte, ouais. Mais aussi j'adore les petits créateurs comme Caro, comme Stéphanie, comme d'autres, avec lesquels il y a un vrai échange de compétences et de savoir-faire. Je pense à Nicolas Pinon aussi qui est un laqueur professionnel qui est incroyable. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de travailler pour des très belles marques, notamment Omega. Omega, Messica et prochainement Saint-Laurent sur des projets qui sont assez incroyables. Ouais. Et ça, c'est, voilà, pour finir, c'est ce qui vraiment m'anime, c'est d'aller au bout du bout dans cette idée-là. Ouais.
Donc vous l'avez compris, c'est un super technicien, super chef, super créatif. Donc il va sûrement partir à l'étranger. Donc profitons, puisqu'il y a les plus jeunes qui nous lisent aussi. Quel est votre biscuit préféré ?
Un biscuit ?
Typiquement, ouais. Le biscuit préféré, à travailler.
À réaliser ou à déguster ? Ouais. Non, à travailler, un biscuit. Un biscuit ou un sablé ?
Celui que vous préférez, travailler ou réaliser.
Je sais pas, j'ai tout de suite en tête un biscuit qui est un biscuit très moelleux, qui est un biscuit Marini, un biscuit cacao chocolat Marini, qui à l'époque était déjà fait par Monsieur Hermé chez Fauchon, et qui était un biscuit en fait un peu comme un biscuit cuillère, mais cacaoté, qui est extrêmement moelleux. Quasi inratable, qu'on le fasse à 600 grammes la feuille ou à 2 kilos, il est incroyable. Voilà.
Est-ce que vous avez une crème préférée ?
Ouais, je dirais une très bonne crème tropézienne. Ah ouais. Bien faite, ouais.
Ah oui, vous avez fait des bûches pour tropézienne.
Oui, ah, aussi, ouais.
Et une galette, non ?
Non, juste des bûches.
Juste des bûches, ouais. C'est déjà pas mal.
Ouais.
En ganache, vous préférez quoi ?
Ah, franchement, moi je suis adepte de ganache noire vanille type Palais Or. Bien fait, une bonne ganache noire vanillée avec une belle origine, plutôt très noire, même 70, 72, 75%.
Ouais. Et le praliné, il est amande ou il est noisette ?
Oui, il est les deux, amande-noisette. Ah oui. Amande-noisette, mais avec un peu de vanille. Et un petit peu de fleur de sel aussi.
Vous faites des inserts, vous, souvent, dans vos gâteaux ?
Bah, si je fais un montage, oui, évidemment.
Et alors, il y en a un préféré ? Un insert ?
Ah, je crois que je suis quand même un grand, grand gourmand au fond de moi, même si je mange pas souvent des gâteaux, j'aime quand même ça. Je dirais une sorte de crème brûlée un peu vanille tonka avec un caramel, des cacahuètes, des choses un peu cochonnes, quoi.
Et alors, ça fait 6 mois que vous êtes sur une île déserte, manger avec des plantes et des lézards. Moi, j'arrive tranquille et sur un plateau, il y a 3 pâtisseries, une au chocolat, une aux fruits et une ce que vous voulez. C'est lesquelles que vous allez préférer manger?
Alors, je dirais un fraisier pour la pâtisserie aux fruits, c'est sûr. Une très bonne crème vanille, toute petite note de fleur d'oranger avec des très bonnes fraises Mara des Bois, ça me va parfaitement. Au chocolat, je dirais quelque chose, ouais, chocolat vanille. J'ai pas spécialement en tête tout de suite comme ça, mais quelque chose d'assez simple et gourmand. Et le troisième, c'était quoi?
Ce que vous voulez. Votre gâteau d'anniversaire, c'est quoi? Si je veux vous faire plaisir.
C'est une très bonne question. Je dirais peut-être un Paris-Brest.
Ah!
Un Paris-Brest, ouais.
Un Paris-Brest avec le petit truc dans la pâte à choux, là?
Ouais, un petit truc comme ça, ou même. bon, il y en a plein d'autres, hein, mais je dirais le boulot de Maxime Frédéric en ce moment, c'est quelque chose que je trouve incroyable, le travail qu'il fait avec son équipe. De recherche, de simplicité, de gourmandise, c'est, ouais, là, j'avoue, je m'éclate, ouais.
Il fait partie de vos pâtissiers préférés?
Ah, bah, c'est mon pâtissier préféré.
Ah, oui.
Il y a d'autres, hein, j'ai plein d'amis, j'adore je suis très admiratif du travail de Claire Hatzner, qui est une amie, de Michael Bartocchetti, j'adore ce qu'il fait à l'hôtel Georges V. Il y en a plein d'autres comme ça, mais j'avoue que Maxime, on est très proches tous les deux, on se voit et on s'appelle beaucoup, et puis je suis vraiment admiratif de la qualité de ce qu'il est capable de faire, ouais.
Vous avez une brigade? Quand vous avez une brigade, pour quelle faute technique vous avez le plus d'indulgence? Ou est-ce que vous êtes trop d'indulgence?
Ah si, j'en ai plein. Ah. Moi, j'ai toujours considéré, je pense que ça fait très longtemps, j'ai été con quand j'étais jeune sous-chef. Je pouvais être dur et pas très tolérant, justement. Mais ça fait quand même maintenant, depuis mon passage au Plaza avec Jean-Marie, où j'ai appris à respecter l'être humain pour ses différences, je considère que tant qu'on a envie, les erreurs techniques, à l'ailleurs, c'est vraiment secondaire. Moi, je m'en fous un peu.
Enfin, si vous avez un pâtissier qui vous tranche 40 litres de crème.
Ah bah, je dirais qu'il a peut-être été mal formé aussi. Parce que si le pâtissier, on lui apprend à faire sur 1 kg et que ça marche, si on met faire 40 kg alors qu'il n'a jamais fait avant, bah, c'est peut-être une erreur de management, quoi.
Bon.
Donc, après, attention, hein, si ça va trop loin et s'il y a trop d'erreurs, évidemment, il faut recadrer. Mais...
Il y a quand même des fautes impardonnables ou pas? Ou vous êtes vraiment trop?
Je pense de jeter de la matière, ouais. De jeter sciemment de la matière parce qu'on n'a pas pris le soin, on n'a pas fait attention, on s'en fout un peu. Ouais, ça, je trouve que c'est presque impardonnable.
Et la qualité professionnelle que vous préférez, c'est laquelle?
La curiosité, je pense.
Ah, ouais.
Ah, bah oui.
Rester vivant, quoi.
Ouais, exactement.
Et vous aguez.
Quitte à faire des erreurs, au contraire.
Ouais.
Quitte à faire des erreurs et à faire des trucs qui... Je le dis assez souvent, mais quitte à faire un peu de la merde, en fait, t'arrives jamais à un résultat incroyable sans être passé par des stades où t'étais complètement paumé, où t'as fait des trucs qu'il fallait pas, qui ressemblaient à rien, qui étaient pas bons, pour arriver à te concentrer sur vraiment ce qui mérite d'être mis en avant.
Et aux plus jeunes, vous conseillez souvent dans vos interviews de la patience, beaucoup de patience.
Oui.
Il faut pas être trop pressé dans ce métier.
Ouais, ouais.
Ou 10 ans pour faire un bon chef?
10 ans pour faire un bon professionnel.
Un bon professionnel.
Un bon chef, je suis pas sûr.
Ouais.
Mais ouais, je pense que les 10 premières années, tu te fais mal, tu te fais violenter, tu apprends beaucoup, tu fais beaucoup d'erreurs, tu t'éclates aussi. Mais les 10 premières années, moi, j'ai un peu souffert de... Je sais pas, j'ai été paumé au bout de 7-8 ans de métier. Honnêtement, j'étais un peu paumé dans ce que j'avais envie. J'avais plus envie de me lever à 3h du matin pour faire des éclairs. Ça me saoulait de faire la même chose tous les jours. Je me voyais pas continuer à faire ça. Enfin, c'était pas fait pour moi ce rythme de vie. Depuis, le métier a bien changé. Je parle de ça, c'était quand même il y a plus de 15 ans. Depuis, le métier a bien changé et tant mieux. Les horaires sont un peu différents. On arrive à s'éclater un peu plus, même s'il y a d'autres dérives. Mais en tout cas, on a plus cette partie, je pense, dure, se lever à 2-3 heures du matin pour faire la même chose tous les jours. Elle est un peu envisagée différemment aujourd'hui, je pense.
Il n'y a aucun doute, c'est un créatif.
Ah bah ça c'est certain, certain. Puis la prod, ça me fait chier. Donc,
Et à votre rêve de bonheur professionnel, serait quoi? D'avoir un cabinet d'invention, de création?
Ah, idéalement, dans le meilleur des mondes, j'adorerais avoir un studio presque de direction artistique, de design et de créa, quoi. Vraiment, moi je rêve d'avoir une résidence d'artiste, j'aimerais vraiment Et avec le temps, j'ai appris que j'ai envie de travailler en collectif à l'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que dans mon activité professionnelle actuelle en tant que consultant, je suis beaucoup seul, je voyage énormément, je suis beaucoup en déplacement à l'étranger et du coup, je me retrouve vraiment souvent tout seul et j'ai envie dans un avenir assez proche d'être plutôt en collectif et de travailler avec un super barista qui est passionné de café, avec un artiste qui sculpte des trucs et en échange, ben, il graffe un mur. J'ai envie de travailler avec des gens intelligents et passionnés et en collectif en fait, c'est très important pour moi.
C'est pour ça que vous passez de l'autre côté de l'Atlantique ?
C'est une des raisons.
Et c'est quoi les autres raisons ?
Je dirais que déjà j'ai un amour pour quand même une certaine culture de l'optimisme aux États-Unis. J'ai vécu pendant 2 ans à New York et j'ai adoré. Alors déjà j'ai vécu pendant 2 ans, j'y suis retourné très régulièrement depuis 10 ans. Et j'adore ce côté très optimiste, très enjoué qu'ils ont, qui peut parfois être un peu fake, qu'on peut considérer comme fake en tant français, mais c'est des gens qui sont heureux. Des gens qui sont heureux de se lever le matin, heureux d'aller au boulot, heureux pour eux, heureux pour les autres, et en fait ça a pas de prix. Donc ça c'est une des raisons. Il y en a une autre, c'est que je suis très proche d'une culture artistique californienne. Dans le son que j'écoute depuis 20 ans, toutes les musiques, dans l'art, dans le street art, dans le tattoo, dans la moto, dans les gars, c'est tout ça, ça me parle en fait, j'adore ça, donc j'ai hâte d'aller découvrir un peu plus. Ouais.
Ben, ce sera ça le challenge 2024.
Ça sera ça, ouais, il y a de ça, ouais. D'aller explorer des nouvelles pistes. Ouais.
Et alors, on sait que vous êtes fan de Nicolas Chevrieux, de Jérôme Chaussès, de Christophe Michalak, de Jean-Marie Blot, de Thierry Bridron et de Nicolas Boussin.
C'est vrai.
Tous des grands professionnels. Comment vous voyez la pâtisserie de demain en France ?
Alors, les chefs que tu viens de citer, c'est tous des gens qui ont été très importants à certaines périodes dans mon parcours professionnel.
Ils sont plus des mentors les que des vedettes, quoi.
Complètement. Ah ouais, ça a été vraiment des gens qui ont été là à un moment donné de mon parcours professionnel qui m'ont beaucoup apporté et auxquels je dois beaucoup. Et c'est aujourd'hui des amis avant tout. Même Christophe qui pour moi était à l'époque Dieu sur terre. Christophe Michalak, pardon, qui à l'époque était vraiment, j'étais très admiratif de son travail avant d'être à ses côtés. Et c'est aujourd'hui, je pense, on a toujours cette relation de chef, mais c'est devenu un ami que je vais voir en vacances. Je me perds un peu. Mais donc la question suivante, c'était quoi, pardon ?
Les mentors, Nicolas Boussin aussi.
Ouais, Nicolas Boussin que j'ai vu hier aussi, qui m'a beaucoup aidé pour la sélection et la finale du meilleur de France. Il a été à mes côtés presque quotidiennement. Même si je ne l'ai pas eu, il était là.
On peut imaginer que vous y retournerez ou...
Non, je n'y retournerai pas.
Trop souffert.
Alors, j'ai beaucoup souffert sur la finale, parce que j'ai pris une grande claque dans la gueule quand même, il ne faut pas se mentir. Mais même, je pense que je suis passé à autre chose. Déjà, depuis la naissance de mes filles, je vois les choses complètement différemment.
Oui.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout, en tout cas dans ma période actuelle, je ne suis pas du tout dans une optique à donner énormément de temps à faire un concours comme celui-là, alors que je préfère passer du temps, le peu de temps que j'ai hors professionnel, je préfère le passer avec mes filles. Voilà, donc non, pas non.
Et la pâtisserie de demain, elle sera éco-responsable, sans gluten, sans lactose, vegan, pâtisserie raisonnée, raisonnable, vous y croyez, vous ?
Alors moi, je pense qu'il y aura... comme un peu dans tout, on va être multicanal à l'avenir. On est obligé aujourd'hui, en tant que, par exemple, chef pâtissier, d'être bon en créa, bon dans les costes, des gâteaux, dans le management, dans la communication, dans plein de choses, ce qui n'était pas le cas avant. On est obligé d'être un peu multitâche. Et je pense que la pâtisserie de demain, elle va être un peu comme ça. Il y aura la pâtisserie qui sera très visuelle pour les réseaux sociaux parce que ça a pris une ampleur incroyable. Parce qu'il y a des gens qui croient dur comme fer que la pâtisserie de demain elle est raisonnée, moins sucrée, moins grasse, AIG bas et avec des matières premières alternatives, et tant mieux. Et il y a des pistes aussi et il y a des clients pour ça et je pense qu'il faudra y aller, mais pas que. Donc je pense que en fait, la pâtisserie de demain, c'est la pâtisserie qui va répondre un peu à toutes ces nouvelles attentes. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est de moins en moins complexe, elle est de plus en plus dans le goût. Et ça, c'est chouette, je trouve.
Ainsi parle François Dominé, né à Thionville en 1988 et qui est un de nos plus grands chefs pâtissiers français en activité, auteur de ce livre Inspiration, 10 histoires de création en pâtisserie aux éditions de La Martinière.
Tout à fait.
Merci François.
Merci à toi.
Et bon voyage aux États-Unis, là.
Merci beaucoup.